Chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, certains ne voient que les problèmes. Vous, vous avez choisi le camp des solutions. Alors, bienvenue dans votre émission en compagnie de citoyens normaux, mais engagés et engageants. Depuis leur premier apéro de voisinage, ils se sont lancés dans de la colocation pour autrui, histoire de tordre le cou à la fatalité de la solitude et du mal logement à Toulouse. Aujourd'hui, ils expliquent la solution qu'ils ont inventée à leur mesure d'ingénieurs retraités qui avaient envie d'en découdre avec la pauvreté. Et Étienne et Théo sont là également pour évoquer cette solution qu'ils ont empoignée, ce qui est aussi quelque part valeureux et une aventure.
Absolument, une belle aventure.
Il faut s'y risquer à cette aventure-là qui n'est pas commune, qui est un peu atypique.
Elle n'est pas commune, certes, mais on est tombé sur la bonne solution au bon moment, sans le savoir.
C'est-à-dire,
en ce qui me concerne, par exemple, j'ai 62 ans, j'étais dans une situation financière catastrophique suite à des aléas familiaux, sentimentaux, etc., etc., suite à une petite consommation de substances illicites pas forcément intelligentes. Et je me suis retrouvé, au bout d'une carrière professionnelle qui était super sympa, je me suis retrouvé dans la précarité et le RSA. Donc là, j'avais plus les moyens de vivre par chez moi. On m'a proposé de venir rejoindre Lien pour l'autre. J'ai compris le projet associatif, le projet de sociabilisation, puisqu'en même temps de ma situation difficile, je m'étais de plus en plus isolé du monde.
Sur combien de temps à peu près ?
En gros, 3 ans.
3 ans ?
En gros, 3 ans. J'ai mis 3 ans à descendre au trou, au fond du trou.
Au moment de la retraite, à ce moment-là, du coup ?
Non, bien avant la retraite.
Bien avant la retraite ?
3 ans avant la retraite.
Vous étiez acheteur, vous, c'est ça, hein ?
J'étais acheteur international. Donc, beaucoup de voyages, trop de voyages. Et puis, un beau jour, tu te dis, on te fait faire des trucs qui ne correspondent pas à ta sensibilité. On te fait faire un boulot qui limite parfois. Et puis un beau jour, j'ai dit stop. Mais en disant stop, je me suis noyé dans le vide abyssal qui s'ouvrait devant moi quand on refuse, quand on dit on abandonne le travail. Donc je me suis retrouvé dans un vide abyssal. Un matin, dans un aéroport, j'ai dit stop. Mais au lieu de dire stop et de rebondir sur quelque chose, je n'ai pas su rebondir. Donc je me suis planté lamentablement. Je me suis planté et puis jusqu'au jour où on m'a fait signe, Lien pour l'autre m'a fait signe.
Mais comment ?
Alors il se trouve que mon frère avait trouvé Lien pour l'autre. Lui, il habitait déjà la région toulousaine. Moi, j'étais région parisienne. Je n'avais jamais ou quasiment jamais quitté la région parisienne depuis 8 ou 9 ans. Et mon frère avait entendu parler de Lien pour l'autre. Quand il a vu que j'étais un peu au fond du trou, il m'a appelé, il m'a dit « il y a une solution ». Tu as une précarité financière, mais tu as une précarité de solitude. Rejoins cette association et puis viens nous rejoindre à Toulouse. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette maison en bordure de Toulouse, à une vingtaine de kilomètres.
Incroyable.
Eh oui.
Comme l'Arche de Noé.
Un petit peu, oui. Un petit peu l'Arche de Noé. Et plusieurs parcours. Donc, j'ai rencontré, quand je suis arrivé au Chais, c'est comme ça que s'appelle notre maison, j'ai rencontré des gens qui étaient de profils tout à fait différents. J'ai rencontré une fille qui était dingue à 70 ans ou presque de métal et de rock métallique. Là. Bon, des trucs comme ça. Une femme qui sortait de 4 ou 5 ans de vie dans sa voiture parce qu'elle n'avait pas de logement. Donc, tout ça, ça s'est mélangé. Moi, j'étais plutôt de la haute, entre guillemets. Et je me suis mélangé sans trop de problèmes avec des gens qui étaient d'horizons divers. Et ça, c'était sympa, mais je ne l'aurais pas trouvé ailleurs, je pense.
Pas trouvé ailleurs, dans le reste de la société, vous voulez dire ?
J'aurais pas trouvé cette solution à mes problèmes de précarité, ces rencontres, dans les milieux que je fréquentais avant, et puis dans les schémas classiques, caritatifs, etc. Quoi. Je connaissais pas du tout cette solution de partage de compétences, de partage de savoir, de partage de connaissances. Je l'ai appris avec l'un pour l'autre. Quoi.
Qu'est-ce qui vous différencie des associations, du coup, justement, peut-être ? C'est quoi la philosophie qui sous-tend ce que dit Étienne ? Parce qu'il y a bien de l'argent derrière, il y a bien un loyer, il y a bien... on parle toujours d'argent, nous, dans notre société. Donc, il faut de l'argent pour faire tenir une maison debout, pour nourrir, pour etc., etc. Comment ça se passe ?
Alors, oui et non.
Je sais que vous avez beaucoup d'argent en tant qu'ingénieur retraité,
voilà,
mais ça ne suffit pas, vous et les copains là.
Oui et non. L'idée justement, c'est de faire un projet qui soit autoportant au niveau d'une cellule de vie. Si ça n'est pas le cas, on n'en monte pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a un propriétaire qui a des besoins en loyer. Et nous, notre savoir-faire modeste, c'est de constituer ce pécule pour que justement, les colocataires soient autonomes.
Mais comment vous faites alors ?
Eh ben, ils payent un loyer.
Mais avec le RSA, par exemple ?
Voilà, une quote-part voilà. De loyer, enfin, en fonction de nos revenus.
Ouais. Et l'idée, justement, c'est de mettre des gens qui vont avoir des loyers différents, des apports différents. On a, au départ, quand, par exemple, on a connu Étienne, on savait qu'on avait déjà une personne qui avait une bonne retraite et sa précarité, c'était la santé. Ce qu'on demande à nos colocataires, c'est, on a deux questions essentielles qui sont évidemment éclatées en plein de petites questions, mais qui sont, quel est ton problème et qu'est-ce que tu peux apporter aux autres ? À partir de là, par exemple, si je prends le cas d'Étienne, il nous a dit, moi, j'ai plutôt des dettes à apporter, mais par contre, au niveau, je suis un bon cuisinier, j'aime l'ordre, je vais m'occuper de ci, de ça, à la maison, etc. C'est fondamental. Étienne, il était incontournable. Il était jusque-là traité par les services sociaux comme, entre guillemets, ce que j'appelle un petit boulet social, d'une certaine manière.
Parce que qui énerve tant les Français.
Qui énerve tant certains Français, etc. Et nous, on lui apportait une solution où on allait valoriser ce qu'il savait faire. Parce qu'on le prenait par cet endroit-là. Et sans occulter le reste, c'est-à-dire sans mettre un chiffon sur ses problématiques à lui. Donc il se fait accompagner, etc. Socialement, on ne met pas... on n'est pas en concurrence avec les services sociaux, on est en complément et on est dans la première couronne. C'est-à-dire qu'on est, d'une certaine manière, les premiers aidants, et je parle de lien pour l'autre, mais aussi Théo est le premier aidant d'Étienne, comme Étienne est le premier aidant de Théo.
Sauf que votre complément, je dirais même que c'est votre premier chapitre que vous apportez, c'est que vous mettez en valeur les capacités comme des richesses, comme un salaire, comme un loyer,
absolument,
etc., plutôt que absolument de ne jamais les découvrir,
exactement,
au bout de X années de social.
Absolument. Et donc, à partir de là, on va faire une charte de vie. Cette charte de vie va être engageante pour tout le monde. Cette charte de vie va juste préciser finalement les affinités avec les... Par exemple, dans la charte de vie, ben, Étienne, il doit faire ça, Théo doit faire autre chose, il s'engage et un petit peu, si vous voulez, on reconstruit une famille avec des gens complémentaires sur un mode entrepreneurial. C'est ça un petit peu l'idée. Et puis, notre petite entreprise, on essaye qu'elle ne connaisse pas la crise. Voilà, tout simplement.
Tout simplement, voilà. Mais c'est déjà super compliqué
d'être
une famille unie, je dirais, alors qu'on est une famille, entre guillemets, de sang, etc. C'est hyper compliqué d'avoir un rôle. Comment vous faites ? Parce que là, vous êtes tous des personnes... Bah, vous êtes adultes, évidemment, ce n'est pas la même chose que de travailler avec des enfants. Mais comment ? Il faut un chef de famille ? Il faut un patron ou pas du tout ?
C'est moi.
Eh bien, je vais rebondir sur ça.
Oui, merci,
comme
Théo.
Comme dans toute colocation et comme dans tout, comme vous avez bien précisé, association de vie, il y a des soucis et les soucis sont réglés, au contraire, comme... grâce à Christophe Lefebvre, tous ensemble, et grâce à cette charte qui nous permet de cadrer et qui nous permet de nous recadrer lorsque souci il y a. Grâce à Christophe Lefebvre, on peut avoir ce lien et ce médiateur entre nous, même si, bien entendu, on s'entend extrêmement bien tous les deux avec Étienne Cobel. On est devenus amis, mais il y a toujours ces problèmes qu'il faut régler, évidemment, et Christophe est là.
C'est quoi le genre de problème qu'on connaît tous à la
que
maison ?
Vous connaissez
hein
tous.
Ah,
les...
c'est sûr. Hein.
Exact. Bien
mais
entendu.
Par exemple,
ça va de, comme tout le monde connaît, le ménage, qui fait le ménage, qui... Bah, ça, c'est évidemment. Je suis plus jeune, heureusement qu'Étienne est là. La petite blague. Voilà le premier exemple. Je ne vais pas m'étaler, mais tout le monde connaît les petits soucis de frigo, de colocation, de frigo, de tout ça. Voilà.
Ah, très bien. C'est tout à fait ça, oui. Mais c'est vrai que votre cible, en fait... Elle est de tout poil, comme vous dites. Précarité financière, précarité physique, précarité argent, précarité solitude, précarité affective, c'est quoi? C'est quoi la précarité pour vous? Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de titre.
La précarité, c'est un bien grand mot et chacun y met ce qu'il veut derrière. Mais surtout, chacun définit sa précarité. On peut avoir... je suis un vieux, donc si je me rappelle de Mike Brandt, qui avait tout pour lui, il s'est jeté du premier étage deux fois. Voyez, on peut avoir toute la misère du monde sur soi et pourtant ne pas paraître précaire aux yeux des autres. Donc nous, c'est chacun arrive avec sa précarité. Et on va avoir un seul mot, c'est moi ce que je promets aux gens, c'est une meilleure approche financière que quand ils étaient tout seuls, évidemment, par cet effet de colocation, et un meilleur projet social pour ceux qui veulent s'intégrer. On a eu aussi des gens qui n'ont fait que passer. Pourquoi ? Parce que nous, on est un endroit pour rebondir. Il est évident, quand on a une précarité physique importante, le rebond est compliqué. On a perdu un de nos colocataires par mort naturelle au mois de janvier, là, mais tout le monde s'y attendait un petit peu. Et on est heureux d'avoir été aussi là pour l'aider quand on a pu et qu'il n'y ait pas eu que les services de la clinique ou de l'hôpital. Après, on s'imagine bien que l'horizon d'Étienne, l'horizon de Théo, ça ne sera pas le même. Théo, on va l'aider à rebondir vers un emploi. Et puis Étienne...
C'est celui qui a 36 ans, qui est architecte diplômé et qui connaît très bien la permaculture. Exactement. Je continue à le dire, comme ça, si un auditeur aussi avisé que celui qui vous a prêté la maison pouvait se révéler, ce serait absolument génial.
Ce serait top.
Voilà. Et Étienne, on espère qu'il va savourer le plus longtemps possible une retraite méritée avec nous. Et
bah oui, puis parce tranquillement, qu'on a tous le même âge,
voilà.
En gros.
Ah bah, à peu près.
Donc, voilà. On est très jaloux des jeunes. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre, pour qu'on comprenne si merci. Vous avez trouvé un antidote à la précarité.
Oui, merci
quelle
à vous.
Quelle qu'elle soit, précarité avec un S.
Merci à vous.
Allez. Merci.